quelles sont les servitudes de service public ou de service collectif qui pèsent sur vous? C'est-à-dire, dans votre cahier des charges, qu'est-ce qui relève finalement de la fonction d'opérateur de marché ou de transporteur de marché? Qu'est-ce qui relève de la fonction de service collectif ou de service universel?
C'est une excellente question, parce que pour moi, le marché, c'est pas le contraire du service public. Et c'est un paradoxe, c'est que la tâche du RTE, qui a 100% de service public, toutes nos activités, je les renvoie à cette dimension-là, leur accomplissement suppose le bon fonctionnement du marché. C'est-à-dire qu'une infrastructure de réseau, pour moi, quand elle fait bien ce travail, quand elle est un monopole, ce qui est notre cas et qui le restera. Vous savez comme moi l'enthousiasme de nos concitoyens pour qu'ils voient des projets de construction de lignes. Donc, bien évidemment, on ne va pas construire, dupliquer les lignes au fur et à mesure qu'il y aura des contrats qui vont se réaliser. Donc, le réseau reste un monopole. Et le principe de fonctionnement de RTE, c'est ça. Alors, je parlerai peut-être tout à l'heure du service public européen, parce que ça, c'est la fin de la question. Hein. Comment on fonctionne? D'abord, un point d'histoire qui est soulevé par certains ici, c'est que le réseau de RTE, entre autres, attention, avant 1998, s'appelait le réseau d'alimentation générale. Réseau d'alimentation générale, il était propriété de l'État. Donc il n'y a pas longtemps, il y a 11 ans. Et puis pour les raisons fiscales, essentiellement, il y a eu une opération de réinjection, d'injection dans EDF. Au même moment, vous voyez les slides que je l'ai dit tout à l'heure, où l'Europe disait ce réseau doit être indépendant de tous les fournisseurs. Donc il y a eu un peu une sorte de squeeze de l'histoire, pour un peu une forme facile, c'est qu'en fait, l'État avait en main propre, en propriété, cette infrastructure. Au même moment, elle le refait rentrer dans les raisons locales, chez l'opérateur historique, qui doit, dès lors, bon, procéder à la séparation. Alors, comment fonctionne le service public? Il y a un cahier des charges, c'est le que vous avez défini, cahier des charges du réseau public de transport qui définit les missions et les obligations. Mais la garantie des missions du service public, elle est principalement, mais surtout assurée dans les modèles mis en place au plan européen par le régulateur. C'est-à-dire que plus un marché se développe, quel que soit le secteur, plus vous avez de concurrents, plus vous devez avoir un régulateur fort, compétent, avec des effectifs, avec des moyens, avec des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place. Si vous avez des autorités de régulation concurrentes, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, c'est certains opérateurs qui en bénéficieront. Et ce sera un discrédit par rapport au fonctionnement de votre marché national. Donc ce n'est pas antinomique, mais l'émission de service public suppose de très bons textes de transposition. Grande chance pour nous, notre secteur et RTE, une loi du 10 février 2000 extrêmement précise, que le gouvernement de l'époque porte en l'appelant loi de modernisation du service public et d'ouverture du secteur électrique. Donc le service public, c'est pas antinomique, l'ouverture du secteur. Donc une loi qui, à la virgule, dit le patron de RTE est nommé par le ministre, les comptes de RTE sont séparés, nos recettes ne viennent uniquement que d'un tarif d'utilisation du réseau, on est une autoroute, tout ce qui passe sur l'autoroute paye, c'est simple, et c'est le régulateur qui fixe le prix. Une deuxième garantie que la loi 2000 nous donne, qui me semble complètement vertueuse, y compris aujourd'hui en 2009, c'est uniquement le régulateur qui fixe nos investissements. Quand RTE dit, fin 2008, à la commission de régulation de l'énergie, il nous faut investir plus pour sécuriser telle région de métropole, c'est le régulateur et lui seul qui donne le feu vert pour une augmentation de 23% des investissements de RTE entre 2009 et 2008. On met sur la table aujourd'hui 1 milliard d'euros d'investissement, et dans notre boucle de régulation, c'est uniquement la creux qui est notre interface. Voilà des éléments de garantie qui, dès lors, renvoient à une nature très particulière la filialisation au sein de l'opérateur historique, puisque la filialisation au sein de l'EDF fait que, de facto, le groupe ne peut ni nommer le patron de cette entreprise, ni rentrer dans la gestion quotidienne, ni fixer les recettes, ni intervenir sur les dépenses. Donc il a, au lieu des textes, un droit de supervision. C'est-à-dire qu'il va vérifier que les grands équilibres de l'entreprise, au plan économique et financier, fonctionnent. Donc il garde cette capacité, et pour le reste, il y a eu un mode de pilotage dans le modèle français, très articulé avec l'État et très articulé avec un régulateur qui répond, c'est un peu long, hein, critères que j'ai évoqués tout à l'heure, je pense qu'on a mis en place sur l'électricité un régulateur qui est plutôt un effectif suffisant et qui joue son rôle. On peut le jouer plus sur d'autres segments, mais la loi ne l'a pas donné. Hein. Le régulateur pourrait aller regarder le prix de sortie du kilowatt nucléaire à la sortie de la centrale. C'est un élément de transparence. Le régulateur pourrait travailler sur une méthode commerciale. Certains concurrents d'EDF, parfois, qui utilisent le crédit d'EDF pour aller foguer au petit mémé des produits qui sont bas. Mais il n'a pas compétence. Donc, le seul rôle du régulateur aujourd'hui, c'est nous. C'est d'être articulé pour que le réseau fonctionne.
Merci beaucoup. Oui, quelques questions, remarques. Alors, je vais faire la salle et la terrasse.
Jean-François Vaugeras, ERDF, une autre partie de une filiale d'EDF aussi, qui est filialisée comme RTE et qui s'occupe du réseau de distribution. Donc je voulais rebondir sur l'exposé de Michel, que je salue, parce qu'on s'est longuement croisé dans différentes aventures, et sur sa présentation très équilibrée du sujet. Et moi, je vais jouer un petit peu plus la caricature ou l'excès. Premier point, c'est on peut revenir sur l'excellent transparent, sur les initiatives européennes, voilà, celui-ci, sur l'histoire. Pour compléter ce qu'a dit Michel, il faut voir que ce débat autour de l'introduction de la concurrence dans le réseau, dans les industries de réseaux électriques et gazières, d'énergie, donc, c'est un débat qui a commencé dans les années 88, une année près, en tout cas qui s'est intensifié à partir de 88, et qui est renvoyé à tout un débat économique, porté notamment par les écoles anglo-saxonnes sur l'introduction de la concurrence dans les industries de réseau. Les Américains étant en pointe et l'Angleterre ayant joué un rôle un peu d'avant-garde sur le sujet. Ce que je souhaiterais que mes collègues saisissent bien, étant un exposé était très équilibré, mais les conflits ont été extrêmement violents. Je dis bien violents, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'une question technique, comme tu l'as fort bien dit, ça renvoie aux trois grandes questions qui sont là. Et ça a été un débat avec les forces politiques et sociales et industrielles extrêmement dur. Alors pourquoi ? Parce que ça n'est pas une industrie, je dirais, c'est une industrie qui a certaines spécificités, je ne vais pas revenir, mais on est toujours dans cette question énergie, dans des renvois et des questions politiques, voire géopolitiques, comme tu l'as fort bien dit. Donc une bataille extrêmement dure, et tu l'as bien dit tout à l'heure aussi, il y avait les questions des missions d'intérêt général. Ce qui est derrière, en fait, c'est que l'introduction de la concurrence dans le système énergétique renvoie, selon les modalités que l'on retient, et je dis bien qu'il y a des modalités différentes selon les pays, comme en Europe, il y a des déclinaisons différentes, même s'il y a des principes de vrai, ça renvoie à des questions à enjeux sociaux et politiques et industriels extrêmement importants. Voilà ce que je voulais dire. Et pourquoi ? Parce que derrière, il y a deux points peut-être que je voudrais compléter. C'est d'abord, ce sont des investissements qui sont à durée de vie très longue. On n'est pas sur des sauts technologiques très rapides comme on connaît aujourd'hui dans les télécoms. On va en avoir sans doute qui viennent dans les années à venir, on l'espère en tout cas. Mais il y a des changements technologiques, mais ils sont beaucoup plus lents. Et dès que vous investissez sur des actifs qui vont durer entre 40 et 60 ans, je dirais, de l'ordre de grandeur. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, peut-être que dans le débat qu'on aura dans les deux jours, on pourra. Et puis on aura sans doute des avis différents, mais on pourra donner des exemples où on montre que certaines orientations, dès que vous prenez un pli dans un sens, attention à toute la couverture des risques qu'il y a derrière. Je pense à l'Angleterre en particulier. Donc cette question du court terme et du long terme se pose, et je m'arrête là-dessus. Sur les prix de marché, qui est un sujet que tu évoquais tout à l'heure, il y a de grands débats qui semblent techniques entre économistes, mais qui derrière renvoie à des questions politiques, quels sont les bons signaux ? Est-ce que les modalités du marché envoient les bons signaux aux différents acteurs pour permettre les bons investissements, pas seulement pour les acteurs, mais pour la collectivité ? Et c'est là où on a des clivages extrêmement forts, les uns les autres, que ce soit à l'intérieur des industries ou avec entre politiques sur les questions. Voilà.
Oui, c'est moi qui vais vous répondre. Je voudrais assurer la salle que vous allez prendre un plaisir fou pendant deux jours. Vous êtes devant une question qui est une question absolument merveilleuse. Vous connaissez dans notre pays le débat sur l'efficacité relative du service public nationale. Vous avez le débat sur l'énergie et son futur dans le siècle. Bien évidemment, on est dans ce sujet-là. Vous avez le débat sur l'environnement. Donc vous allez, pendant 2 jours, déguster ça et je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de cadavres dans les placards. Donc on ne va pas vous cacher des choses ou qu'on ne va pas aller trop vite vers la solution. Et on aura un débat en fin d'après-midi demain qui sera donc un débat sous forme un petit peu de controverse. Quel bilan tire-t-on? Parce que ce que vous avez dit l'un et l'autre est absolument essentiel. Je voudrais tout de même vous rappeler quelque chose. Nos concitoyens n'y comprennent plus rien. Mais alors là, plus rien du tout. Est-ce que le marché fonctionne mieux que l'ancien système auparavant? Vous avez tous les avis possibles. Les uns sont accusés de tous les bénéfices et de tous les défauts. Vous êtes sur un sujet qui marque une transformation tout à fait considérable. Je voudrais prendre deux petits points que je ne vais pas traiter tout de suite. Le premier point, à travers ce que Michel nous a dit, on s'est dit, là ça y est, il y a un truc européen, c'est génial, on va partager le machin. Je voudrais te rappeler, Michel, que l'énergie n'est dans aucun traité européen. Et les États ont refusé que l'énergie soit dans les traités. Donc vous avez une Europe énergétique de fait qui n'est pas dans les traités. De la même façon, la dérégulation a été mise en place, la privatisation des secteurs a été mise en place dans une période d'abondance énergétique après les crises pétrolières des années 70. Et puis aujourd'hui, on revient sur le même sujet avec un débat absolument considérable, à la fois sur les hydrocarbures, Jean-Luc va nous traiter ça tout de suite, et puis derrière, débat environnement. Vous voyez à quel point ces choses-là bougent et à quel point elles sont inscrites dans des éléments historiques. Alors, si vous voulez, si je peux me permettre vis-à-vis de vous de vous donner une garantie et un fil rouge sur nos 2 jours, c'est d'essayer de comprendre, je dirais dans le respect des positions de chacun, quelle a été l'histoire de l'énergie sur les 20-30 dernières années et puis les éléments prospectifs qui sont devant nous. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que le schéma actuel aujourd'hui n'est pas un schéma achevé. Non seulement il est hybride, mais il n'est pas achevé. Il va bouger dans les décennies qui viennent. Bon. Et donc, si cette formation a un sens, c'est que vous ayez l'ensemble des clés de décodage pour comprendre comment on en est arrivé là, les avantages, les inconvénients, etc. Et puis, quelles sont les choses qui sont devant nous, et que quand vous entendrez des nouvelles sur ce sujet-là, ben, vous ayez les moyens de décryptage, de pourquoi, qu'est-ce qui est derrière telle et telle décision, quel rapport de force, etc. Donc, on a 2 jours pour avoir, je dirais, cette dégustation collective, et c'est ça, je crois, le but de ce genre de séminaire.
Alors, Pierre, je te remercie beaucoup d'avoir pris la main et du coup tu la gardes, mais avant de la reprendre quand même, je crois que Luc voulait poser une question.
Ou une remarque.
Est-ce qu'à chaque fois, pardon, vous pouvez vous présenter aussi pour nos interlocuteurs qui ne connaissent pas forcément?
Luc Mabeuf, président CESR d'Aquitaine. Je crois que dans ces histoires-là, les mots sont importants. Moi, ce qui m'a amusé, pour essayer justement, comme le dit Pierre Radam, de mieux s'y retrouver. Parce que d'un côté, on dit le marché nécessaire pour unifier, et puis tout de suite, on parle de la nécessité de la régulation. Or, marché et régulation ont été souvent présentés comme des éléments antinomiques. Alors, je ne vais pas faire dans le dogmatisme pour l'un ou l'autre, mais ça nous appelle quand même à réfléchir, parce que ça laisse bien entendre que le marché, c'est donc pas une main invisible quelconque qui va trancher ces questions-là. C'est-à-dire qu'en dernier ressort, c'est des questions éminemment politiques, de savoir comment on va faire nos choix. Et de ce point de vue-là, ça nécessite bien une vision la plus globale possible. Et moi, j'ai à l'esprit la manière dont sont présentés et dont les citoyens sont invités à participer à des débats locaux dans les commissions particulières de débat public. J'ai en tête, par exemple, un projet de terminal métallier en Gironde, où ce qui va dominer, c'est le « not in my backyard », parce qu'en réalité, on a une vision très localiste et on a du mal à intégrer telle ou telle infrastructure dans une vision d'ensemble, tant d'un point de vue d'une politique nationale d'approvisionnement énergétique, voire européenne. Et si on n'articule pas les enjeux locaux, mais aussi du fait qu'on est des citoyens français et européens, on a du mal à s'y retrouver. Et je trouve que, quand même, les mots sont pas très...
On discutera de tout ça, mais résistez tout de même, si c'est possible, tout de suite, à commencer le débat, là, ce matin. Ce qu'il faut qu'on fasse, au niveau du plan de travail, il faut qu'on commence par vous donner des éléments d'information. Hein. On nourrit, on vous donne les pièces du débat, et puis... On a beaucoup de temps sur ces deux jours. Rassurez-vous, le débat aura lieu et toutes ces questions-là seront bien évidemment traitées. Mais si vous voulez, jouons le jeu de commencer par les éléments de contenu d'information. Donc là, si vous avez bien repéré la discussion, Michel vient de Moscou. Moi, je viens de Kyoto, et puis on a... Et puis, Jean-Luc, lui, il vient quand même un tout petit peu de Lisbonne. Bon, donc, on va essayer ce matin de vous présenter tout ça. On va commencer par Jean-Luc, donc sur la partie pétrolière, sur la partie des ressources. Je suivrai derrière sur la partie climatique. Et l'ensemble des débats que tout cela nous posera. Donc on va pas être sur la question du marché, la question des réseaux ce matin, mais on va être sur les fondamentaux historiques du secteur de l'énergie. Et puis alors cet après-midi, là on vient sur la question des réseaux et tout ce qui a été introduit tout à l'heure par Michel. Et puis alors demain à ce moment-là, on rentrera dans un emballage collectif. Voilà.